Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. On est toujours bien contents de vous voir. Donc ce soir, nous allons parler de la viticulture. Ça fait fort un peu, non, quand je parle? Ça va? Bon. Il me semble que j'oublie quelque chose. Oui, ça paraît évident. Donc vous savez que tout ce qui se dit là est enregistré pour que des gens qui habitent beaucoup plus loin puissent l'entendre rétrospectivement. Donc quand vous aurez le micro, vous ne parlez pas en dehors du micro, et quand vous l'avez, vous parlez bien en face du micro. Voilà. Donc je vais demander à tous nos intervenants de se présenter les uns après les autres, et puis nous pourrons commencer. Peut-être que... Non, on laisse ouvert les portes, oui, c'est mieux. Oui. Vous avez chaque... Voilà, si vous voulez commencer à vous présenter, c'est intéressant de bien présenter comment dire, les sujets sur lesquels les personnes peuvent vous poser des questions. Moi, je ne suis pas spécialisée. Dans... C'est bon, allez-y. Ça marche
bien. Bonne soirée. Donc, je m'appelle Christian Guilleret. Je suis historien à la retraite et j'ai un petit peu touché à l'histoire du vin, un peu en général et plus particulièrement en Savoie.
Alors moi, je suis Bernard Bachelier, je suis vigneron sur Éton depuis 2002. Voilà, donc on a une toute petite structure et on est agréé en bio depuis maintenant quelques années. Hein. Voilà.
Donc Véronique Dupasquier, je suis viticultrice sur la commune de Jonjieu, donc installée depuis une dizaine d'années sur une exploitation familiale.
Bonjour, bonne soirée à tous. Je suis Serge Taboulot, le responsable pour Météo France des Alpes du Nord. Et j'interviens aujourd'hui plutôt dans le domaine changement climatique. Je ne suis pas complètement, je dirais, novice dans ce domaine, puisque j'ai été pendant longtemps responsable du suivi du climat pour la région Rhône-Alpes. Et j'ai sévi aussi beaucoup en Bourgogne, en particulier avec l'interprofession des vins de Bourgogne sur ces sujets. Donc,
Johanna Mamazian-Roy, je suis conseillère viticole à la Chambre d'agriculture de Savoie et Haute-Savoie. Je suis accompagnée de Benoît Grisard, qui représente aussi la Chambre d'agriculture. Donc, du coup, on est deux en fonction des questions que vous allez avoir. Donc, moi, j'accompagne les viticulteurs des deux Savoies dans la réduction des phytosanitaires. C'est une mission que la Chambre porte depuis une dizaine d'années. Donc, on a un peu de recul par rapport à ça. Et des vitis conventionnelles et en biologie, en agriculture biologique aussi.
Evelyne Léard-Vibou, je suis journaliste spécialiste du vin et professeure de dégustation. Pour les Savoyards qui me connaissent ou qui lisent le Dauphiné, j'ai une chronique tous les dimanches sur les vins de Savoie. Voilà, donc oui. Je pense qu'on s'est tous présentés.
Voilà, donc comme d'habitude, nous allons répondre à vos questions. Où sont les micros dans là ou là, si vous voulez poser une question donc.
Oui, bonsoir. Est-ce qu'il est envisagé à l'avenir de réintroduire, j'ai cru comprendre, historiquement, le cépage lié au le Noah, qui était présent, je crois, jusque dans les années 30 en Savoie, et qui avait une certaine résistance à des maladies, et qui avait été... On a cessé de cultiver, on va dire, ce cépage pour des raisons de maîtrise de vinification. Et alors j'ai découvert qu'il était réintroduit en Vendée, et est-ce qu'on espérait le remettre en Savoie?
Peut-être vous pouvez répondre l'un ou l'autre.
Pour l'alcool, je pense qu'il a été réintroduit en Vendée uniquement pour faire le... Qu'est-ce qu'on fait en Vendée? C'est le cognac. Oui, le pinot, mais le cognac également. Et je pense qu'il sert pour le cognac, en fait. Mais peut-être également pour le pinot, oui. Oui. J'ai mon voisin qui fait du vin de Noah. C'est très marqué en goût, c'est pas forcément génial, hein. Alors, est-ce que ça peut servir éventuellement à faire des hybrides ensuite? Enfin, pour l'instant, on n'est pas vraiment dans cette démarche-là. Je ne crois pas. Hein. Après, je ne sais pas si...
Est-ce que vous voulez répondre, madame Dupasquier?
Il a été interdit en Savoie en 1956 parce que c'est un cépage dont le vin, disait-on, rendait fou.
Donc il était chargé en un certain nombre d'éléments chimiques qui n'étaient pas très favorables à la santé. Donc on l'a supprimé. Mais effectivement, pour des raisons de lutte contre les maladies et surtout pour éviter l'utilisation de tous ces produits chimiques au sens large dans les vignes, on s'est rendu compte qu'il avait quand même des propriétés intéressantes. Et il y a des travaux d'hybridation qui semblent se dessiner dans les INRA à ce sujet-là, mais je n'en sais pas plus.
Très bien, c'est une réponse. Est-ce que quelqu'un pose une
petite simplement, il rendait fou aussi parce qu'on en consommait beaucoup à l'époque.
Oui, l'absinthe a été interdite, oui. Voilà. Oui. Ah oui. Ah oui. Donc il vaut mieux qu'on les supprime, je pense. Oui.
Oui, mais moi j'aurais une question. Je suis là.
Ah pardon, excusez-moi.
Là, on vient. Monsieur vient parler de traitement chimique. Moi, ça fait un moment que je bois du vin de Savoie sans me poser plus de questions que ça. Et récemment, quelqu'un m'a dit, mais en Savoie, on traite plutôt plus qu'ailleurs, voire même nettement plus qu'ailleurs. Donc, je voudrais savoir si c'est une réalité ou voilà, ou si c'est une invention. J'ai l'impression qu'il y avait une tendance à moins traiter le retour de l'herbe dans les vignes.
Oui, peut-être que plusieurs personnes pourront répondre. Qui commence? Oui, je crois que plusieurs vont avoir une réponse. Là.
Je ne pense pas qu'on traite beaucoup plus. On est dans des régions un peu climat un peu humide. Et donc, automatiquement, les maladies cryptogamiques sont très présentes, un peu comme dans le Bordelais aussi, hein, ils ont la même problématique. Mais je ne pense pas qu'on traite plus que dans le Bordelais, hein, je ne crois pas. Alors moi, je traite d'une certaine façon, puisque je suis en bio. Hein. Après, je ne sais pas au niveau des autres collègues.
Est-ce que vous... Allez-y.
Alors du coup, en Savoie, il l'a très bien expliqué, on est quand même dans un climat qui n'est pas le même que partout. Vous êtes dans le sud, il fait chaud, il fait sec, il y a des maladies qui ne se développent pas et qu'on n'a pas besoin de traiter ici. Il y en a quand même 4 maladies cryptogamiques qui sont à traiter en Savoie avec le climat qu'on a, avec la difficulté qu'on a aussi de traiter des zones de montagne. Il faut se rendre compte que ce n'est pas sur du plat et les viticulteurs font beaucoup d'efforts sur ces traitements-là qui sont compliqués. On ne traite pas plus qu'ailleurs. On a, comme dans tous les vignobles, des personnes qui traitent plus que d'autres parce que c'est plus difficile ou parce qu'ils n'arrivent pas à investir sans du matériel performant et du coup, ils sont en phase de changement, mais on ne traite pas plus qu'ailleurs. Non.
Madame Dupasquier, oui, monsieur Guiril ou l'autre, oui.
Pour replacer dans un contexte un peu plus large la question, c'est-à-dire au niveau national, c'est quand même la vigne qui utilise le plus de ces produits-là. 3% de la surface agricole utile, 3%, 30% de l'utilisation pesticides, fongicides dans ce domaine-là. Après, la question de la difficulté ou des problèmes climatiques se pose peut-être avec acuité dans certaines régions, par exemple le Bordelais qui est beaucoup plus humide, mais il faut savoir que le pourcentage de vignerons en bio en Alsace est l'endroit où il est le plus élevé, 16,8%, alors que la moyenne nationale atteint péniblement les 10%. Voilà quelques données chiffrées qui permettent de réfléchir.
Peut-être rajouter aussi que le problème de la vigne, c'est qu'elle est sujette à des maladies qu'elle ne reconnaît pas. C'est des maladies qui sont venues des États-Unis, d'Amérique, le mildiou, l'oïdium, le black rot. Et ces maladies, en fait, les vignes européennes ne les reconnaissent pas et elles sont très fragiles face à ces maladies. Donc on est pratiquement obligé, parce que c'est vraiment une grosse problématique, c'est d'arriver à lutter contre ces maladies. Et on n'a pas forcément tous les moyens nécessaires pour le faire, même en bio aujourd'hui, c'est assez compliqué. Hein. La problématique de la vigne, c'est pour ça que la quantité de produits phytosanitaires est aussi importante dans ce domaine-là. Parce que je pense qu'on a une vigne dans laquelle le mildiou rentre, c'est, ça fait pitié. Enfin, je veux dire que c'est quelque chose qui est terrible. Elle se fait bouffer en l'espace de quelques jours, il n'y a plus rien. Hein. Il n'y a plus de rameaux, il n'y a plus de sarments, il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus de grappes, il n'y a plus rien du tout. L'oïdium, c'est pareil. Et si on ne fait pas attention à ça, c'est vrai qu'on n'aura pas de récolte, c'est évident. Hein. Que ce soit en bio ou pas en bio, d'ailleurs, c'est pareil. Hein. Donc c'est une problématique importante. On n'a pas forcément les mêmes problèmes dans le maraîchage. Enfin, je ne connais pas très bien, mais enfin, je pense qu'on n'a pas ces problèmes de maladies.
Plusieurs micro
qui ne sont pas connus.
Le maraîchage, on a plusieurs cultures. C'est-à-dire que si malheureusement on se loupe sur un légume, on a les autres pour se rattraper. Alors il y a une perte, on est d'accord, hein, mais en viticulture, on se loupe. On se loupe pour un an, voire plus, parce qu'il y a aussi les conséquences sur l'année suivante. Une vigne, là, actuellement, les vignes sont en train de faire dans leurs bourgeons les rendements de l'année prochaine. Hein. Donc c'est l'année d'avant que tout se passe aussi.
Madame Dupasquier, vous souhaitez.
J'ai un complément de question sur le même sujet, l'aspect administratif. L'aspect administratif, toujours par rapport au traitement. J'ai lu pas plus tard que cet après-midi un article qui exposait un débat, je crois, au niveau européen, je crois, sur l'obligation de marquer sur les bouteilles de vin la composition.
La composition, actuellement, il n'y a pas de...
Tout, j'ai jamais vu tout ce sur qui l'étiquette. Rentre dans la composition du vin, ce qui n'est pas le cas de, actuellement, c'est absolument pas obligatoire.
Oui, voilà.
Alors que ça l'est pour l'eau, par exemple.
Ah oui, peut-être qu'on verra ça.
Alors, je ne sais pas le point de vue.
Oui,
de...
c'est bien. Vous voulez réintervenir ?
Alors, la composition du vin ou du raisin jusqu'à la fabrication du vin ?
Tout ce qui rentre dans la composition, vous voyez bien à quoi je fais allusion.
Du coup, des analyses de vin.
Voilà, oui.
Je suis en train de réfléchir en même temps. Ça n'existe pas pour l'instant. Je pense que au niveau quel seuil prendre, quel seuil, est-ce que c'est dangereux, est-ce que c'est pas dangereux pour la santé, est-ce qu'on prend un seuil pour l'environnement, pour la santé humaine. Là, je pense que du coup, à mon avis, au niveau européen, le débat il va durer longtemps. C'est pas impossible.
C'est bien ce que disait l'article. Oui.
Voilà, ça va durer longtemps. Oui. Et après, moi, je me pose aussi les questions. Si on parle de ça, est-ce qu'on met le taux de sucre? Est-ce qu'on met l'acidité qu'il y a? Enfin, voilà, jusqu'où ça va aller Bon, les degrés sont... les calories, oui, ouais. C'est possible. Ça, je pense que ça va durer longtemps, le débat, à mon avis.
Donc, vous n'êtes pas au courant de la polémique. L'article est très bien, je vous l'enverrai. Hein.
Oui. Je connaissais la polémique par rapport au sucre, aux calories, tout ça, tout ce qui était nutritionnel. Après, la composition de ce qu'il y a dans le vin...
Tous les produits, toutes les levures qui rentrent dans la composition, oui. Par exemple.
Ouais. Ça va durer longtemps, je pense, le débat.
Une question ?
Voilà. Vous avez attaqué directement sur ces questions de traitement et tout. Est-ce que vous pourriez préciser, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez dit qu'il y avait 4 maladies. Quels sont les traitements associés? Et si on parle de transition en bio, quelles sont les marges de manœuvre que vous avez, puisque ça a l'air d'être délicat dans un climat humide? Est-ce que vous pouvez présenter un peu les choses, qu'on puisse voir à quoi ça correspond?
Vous commencez.
Pour nous, donc en bio, en fait, on ne peut plus utiliser de produits de synthèse. Le seul produit qui est encore autorisé et qui fait problème, polémique au problème, c'est le cuivre, sous forme de sulfate, d'hydroxyde ou d'oxyde cuivreux. Pour l'instant, on ne peut pas s'en passer, on ne sait pas s'en passer. Par contre, on a, d'une façon drastique, on a baissé les doses de cuivre. Demain matin, par exemple, je vais faire un petit traitement, plutôt dirigé sur le black rot, et je vais utiliser 100 grammes, 70 grammes de cuivre métal à l'hectare. Donc c'est extrêmement peu par rapport à ce qu'on a pu faire à une époque. Mais pour faire ça, je rajoute une décoction de prêle. Je travaille qu'avec les plantes, suite à côté. C'est la seule façon de pouvoir arriver à une espèce de synergie entre la plante et le sulfate de cuivre ou l'hydroxyde de cuivre qui permet de traiter à des doses de cuivre très très basses. Hein. Il y a toujours un petit risque, bien sûr, on prend des risques. Hein. Mais globalement, ça marche relativement bien. Même dans les années un petit peu difficiles, on a eu de bons résultats. Et généralement, on vendange normalement comme tout le monde, en fait. Donc, c'est possible. Ça demande plus de soins, d'attention à la vigne. C'est-à-dire qu'on ne traite plus tous les 15 jours d'une façon systématique et sans trop réfléchir à ce qui se passe. On traite que s'il y a besoin de traiter. S'il faut faire deux traitements dans la semaine, on les fait. parce que c'est vrai que ça arrive aussi. Hein. On a eu des années très difficiles, surtout au mois de mai, juin. Là, on a des printemps un peu curieux et atypiques aujourd'hui, hein, depuis quelques années. Et par contre, s'il n'y a pas lieu de traiter pendant 15 jours, voire même plus, on ne traite pas. Ça ne sert à rien. C'est pas indispensable. Et on est, comment dire, on est tenu à ne pas dépasser, alors aujourd'hui ça a encore changé, à dépasser une dose de 4 kg à l'hectare de cuivre métal par an, et ça lissait sur cette année, hein, pour éviter, s'il y a une année on est obligé de dépasser cette dose-là, qu'on puisse l'année suivante récupérer, enfin il y a des années qui sont plus ou moins favorables, donc c'est en gros c'est 4 kg par an et par hectare de cuivre métal. Pour donner une idée, nous, il y a 2 ans, on était à 1,9 kg, et l'année dernière, à 2,1 kg. Donc, on peut très, très bien travailler de cette façon-là. Il reste quand même qu'on utilise du cuivre. Ça, c'est pas encore... on n'a pas trouvé d'autres solutions. Hein. Alors, le cuivre, c'est quand même toxique. Hein. Voilà, c'est quand même problématique, c'est surtout pour la terre, parce que c'est vraiment pas bon, hein, pour le sol. Hein.
Ça s'accumule, je crois.
Ça s'accumule, oui. Voilà. Ouais, tout à fait. Hein. Pour l'organisme...
Pas trop.
Un peu moins, mais enfin voilà.
Pas trop. C'est plus irritant que toxique pour les gens qui travaillent.
Oui, c'est un produit.
Mais par contre, ça s'accumule dans le sol. Oui.
Voilà, tout à
oui.
Fait.
Alors du coup, vous avez posé la question des 4 maladies. Donc il y a, on en a parlé, mildiou, oïdium, black rot, botrytis. Alors pour vous rassurer, on va commencer à parler par le botrytis. En Savoie, il n'y a quasiment plus personne qui le traite. Ils font beaucoup ce qu'on appelle des mesures prophylactiques, donc aérer la vigne pour pas qu'il y ait d'humidité qui se crée sur le cep. Donc ça évite des traitements, pas que sur l'antibotrytis, ça évite aussi des traitements sur d'autres maladies, puisque c'est l'humidité qui développe quand même pas mal les maladies. Donc en conventionnel, parce qu'on a parlé du bio, donc conventionnel, c'est tout ce qui n'est pas en agriculture biologique. Donc c'est un mot un peu barbare, on a l'impression que c'est des chimistes qui vont traiter, et c'est pas le cas. Donc on a quand même plus de molécules disponibles, vraiment beaucoup plus, avec des délais entre les traitements qui sont plus longs que sur le bio. Le bio, s'il pleut, c'est ce qui nous expliquait, il faut retourner traiter. C'est souvent des petites doses en fait. En bio, c'est ce qu'on utilise, cuivre, soufre sur des petites doses. Mais on voit le viticulteur plus souvent dans sa vigne. Il passe plus souvent. En conventionnel, on passe moins souvent avec des produits qui sont pas lessivés par la pluie. Maintenant, ils utilisent aussi du soufre, ils utilisent aussi du cuivre pour en alternative de d'autres produits, surtout en début et en fin, là où il y a les risques qui sont le moins importants. Et ils couvrent avec des produits plus sécuritaires, là où il y a vraiment des phases qui sont sensibles. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Et la période conventionnelle vers le bio, c'est ça. C'est commencer à faire des petits traitements. Mais le plus difficile, honnêtement, c'est pas les maladies, c'est la gestion de l'herbe dans les vignes. C'est le plus difficile. Oui. Voilà. En zone de montagne. On rappelle, on est en Savoie.
Une question qui est là.
Oui, j'ai une...
Le monsieur derrière.
J'ai une question ici, là, derrière, oui. Au fond.
Ah, ça, j'ai pas vu, là.
Ici même. Je suis prêt à me couvrir de honte avec ma question, parce que j'entends beaucoup parler de chimie, et j'ai surtout entendu, il y a quelque temps, soit des émissions, soit vu dans des journaux, des traitements avec la musique. Alors, j'aimerais, si vous avez connaissance, je savais que ça ferait rire, mais enfin, les gens qui en ont parlé étaient très sérieux. Donc, est-ce que vous avez un retour d'information là-dessus?
Alors, j'ai fait mon stage de fin d'études à l'INRA de Montpellier, et ils étaient en train d'en parler, ils voulaient faire des essais, donc c'était il y a 3 ans. Il y a 3 ans, c'était pas encore en cours parce que c'était un peu loufoque, on va dire. Mais oui, il y a des personnes qui mettent de la musique dans leur vigne. Il faut savoir que la musique, elle a une certaine fréquence qui a un impact sur l'organisme en fonction de la fréquence. Alors du coup, ils ont trouvé une fréquence pour les plantes. Il n'y a pas de retour, il n'y a pas d'expé là-dessus. Donc je ne peux pas vous le dire. Mais il y a des vignerons qui le font. À ma connaissance, j'en connais pas en Savoie. Il y en a peut-être, mais qui ne le disent pas, c'est possible. Mais pas... Voilà. Voilà. Donc pas encore de résultats expérimentaux là-dessus, mais il faut savoir que l'INRA se penchait sur la question quand je suis partie. Voilà.
C'est intéressant, très bien. Monsieur ?
Dorée, comment faites-vous pour la traiter justement?
Oui, c'était le nom des produits.
Voilà.
Qui...
Comment? Je vais répondre. Du coup, il y a des traitements en bio et en conventionnel. Hein. Les bio traitent la flavescence sur les zones obligatoires. Il faut dire que donc la flavescence, pour vous expliquer, c'est transportée par un insecte qui est la cicadelle, donc cicadelle de la flavescence. C'est une maladie qui est en train de, je pèse mes mots, mais qui peut ravager notre vignoble si on ne fait pas attention à ce qui se passe. Il y a des viticulteurs qui arrachent des parcelles. Le traitement, ils ne le font pas par plaisir. De toute façon, ils ne traitent pas par plaisir. Faire un insecticide, c'est souvent un arrache-cœur pour beaucoup d'entre eux. Et en bio et en conventionnel, on traite. On traite dans les deux cas. Il y a un seul produit cicadelle, enfin de la flavescence dorée en bio, plusieurs produits en conventionnel, mais dans tous les cas, ils traitent. C'est un arrêté préfectoral, ils ont l'obligation, et pour de bonnes raisons. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu vraiment à la question, mais voilà.
Monsieur, je crois que vous voulez poser. Ouais.
Le vignoble en Savoie est implanté dans des zones qui ont une géologie très particulière et très locale. Par suite, il y a des problèmes, je dirais, de microclimat qui font que ça peut geler sur une parcelle, ne pas geler sur l'autre. Comment vous gérez tout ça? On a vu ces derniers temps des feux de paille pour essayer d'éviter du gel. Bon, alors comment vous arrivez à gérer cette complexité du sol avec une météo qui est très particulière actuellement?
Qui veut répondre? Peut-être monsieur.
Alors je vais peut-être pas tout à fait répondre à votre question, mais répondre au contexte. Le contexte, c'est, on entend parler tous les jours de changement climatique, et en même temps, on voit presque tous les jours, là, depuis... on va dire 2 ou 3 semaines, de belles images à la télé avec des brûlots, avec des gens qui font brûler de la paille pour se protéger du gel. Alors, est-ce que c'est antinomique? Ben, pas du tout. Pas du tout pour deux raisons. La première, c'est que globalement, il y a une augmentation des températures, et là, ce n'est pas mes voisins qui vont me contredire, qui font que les stades phénologiques de la vigne sont tous un peu plus tôt qu'avant. Et c'est pas pour rien qu'un historien célèbre qui s'appelle Emmanuel Leroy Ladurie a reconstitué le climat à partir des dates de vendange en Bourgogne. Hein, voilà. Donc ça, c'est absolument indéniable. La deuxième raison, c'est que malgré ce réchauffement des températures et l'avancement plus rapide de la vigne dans la saison, eh bien, on retrouve quelque part dans la variabilité du climat au printemps, qui est vraiment la saison de la grande variabilité, on l'a dit tout à l'heure, eh bien, on retrouve des extrêmes sans doute un petit peu plus larges qu'avant, ce qui fait que des dates de gelée classiques en fond de vallée, pas dans les coteaux les mieux exposés, évidemment, mais des dates de gelée classiques, finalement, le repère des jardiniers, des saints de glace et compagnie, il n'est pas si idiot que ça. Hein, quelque part, jusqu'à la mi-mai, on craint, dans nos coteaux savoyards, et surtout quand la vigne elle est un peu en bas, eh bien on craint toujours des gelées à cette date-là. Et ça fait d'autant plus de mal qu'en général, le stade phénologique de la vigne est plus avancé. Voilà, tout simplement.
C'est exactement ça.
Vous pouvez intervenir sur les vendanges, les dates, tout ça, madame?
Oui, alors comment par contre les viticulteurs s'en protègent? Parce que c'était un peu votre question. Là, je pourrais peut-être plutôt passer la parole à ma voisine.
Alors, la protection contre le gel, elle n'existe pas vraiment en Savoie, puisque, comme vous l'avez vu, hein, il y a des décisions de dernière minute qui sont prises pour brûler, mais il n'y a aucune parcelle, à ma connaissance, qui n'est équipée, par exemple, pour arroser les vignes, pour ce qu'on a pu voir, etc., parce que c'est des investissements très onéreux. Et objectivement, moi, si je fais un historique, on craint beaucoup plus la grêle dans nos régions que le gel de printemps, sur, on va dire, une vingtaine d'années en arrière. Alors, parce que la question suivante, c'est contre la grêle. Ben, contre la grêle, jusqu'à il y a Alors, je vais vous dire 8 ans, mais je ne sais pas la date exacte. On était bien protégés puisque vous avez tous entendu tirer les canons. Hein, et moi, mon grand-père en était convaincu. Bon, après, pour des raisons, tout un tas de raisons, ça a été interdit. Et aujourd'hui, on n'a pas de système fiable pour se protéger contre la grêle. Et ça, ça nous inquiète à la limite beaucoup plus que le gel. Je vais être honnête, parce que la grêle, elle est fréquente tous les ans en Savoie, tous les étés. Hein, et elle fait des dégâts. Alors, c'est heureusement pour nous, souvent des secteurs très limités. Mais c'est plus important en conséquence que les gels de printemps, même si là, sur les 3 dernières années, il y a quand même 2 années où on a eu des dégâts de gel. Après, pour les dates de vendange, ben, moi, j'ai regardé. Donc, j'ai un historique des dates de vendange sur mon exploitation depuis les années... j'ai retrouvé depuis 83. Il me manque peut-être 5 années jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est vrai que quand j'ai regardé, sur fin des années 80, les vendanges attaquaient sur mon domaine jamais avant début octobre. Après, quand on arrive dans les années 90, là, on commence à attaquer sur fin septembre, mais jamais avant mi-septembre. Et si je regarde sur les 10 dernières années, puisque moi je me suis installée il y a 10 ans, on a attaqué autant de fois autour du 15 qu'autour du 25. Donc il y a effectivement, alors c'est très variable d'une année sur l'autre, mais il y a effectivement une avancée des dates de vendange. Comme on a, mais mon voisin l'a dit, hein, c'est vrai qu'on a des hivers de plus en plus doux et donc des départs de vignes, de végétation de plus en plus précoces. Donc ça c'est un fait, hein, il suffit de sortir pour le constater. Ouais.
Qui avait une question tout là-bas.
Est-ce qu'il existe des aides de l'État français ou de l'Union européenne pour passer d'une viticulture conventionnelle à biologique? Et si oui ou sinon, qu'est-ce qui empêche pour l'instant les vignobles conventionnels de passer à l'agriculture biologique?
Alors, il existe des aides à la conversion et au maintien à la conversion. Les aides, elles ne sont pas très élevées du dire des viticulteurs. Ce n'est pas ça qui empêche. Enfin, quand on a une baisse de rendement, ce n'est pas ça qui va aider, clairement. On passe par conviction en bio, vraiment. Après, il y a des personnes qui font... vous avez sûrement entendu le « je fais du bio, mais je ne suis pas en bio ». Aussi par conviction, c'est qu'ils ne veulent pas rentrer dans une case, ils ne veulent pas avoir d'étiquette. Ils veulent aussi se garder une option... au cas où vraiment il y a un problème. En bio, il n'y a pas de traitement qui permette de tout stopper, de stopper la maladie. Voilà. En conventionnel, on n'en a quasiment plus. Hein. Des produits chocs comme ça, ça n'existe quasiment plus. Mais on peut du coup essayer de limiter et se dire, bon là, on va se calmer, on arrête de faire du bio et on repasse sur du conventionnel pour ceux qui se gardent la marge. Après, c'est ce que je disais, le plus difficile... quand on veut passer, ce n'est pas les maladies, malgré ce qu'on pense, c'est vraiment la gestion de l'enherbement. Ici, on est sur des coteaux où il y a des parcelles à plat, on est d'accord, mais on est sur des coteaux où on n'arrive pas à rentrer sur les parcelles, où on ne peut pas forcément travailler son sol, c'est-à-dire qu'on perd, on peut perdre du rendement parce qu'il y a une concurrence herbe avec la vigne. Voilà, il y a tout ça qui est à prendre en compte, et tant qu'on ne maîtrise pas sa gestion d'enherbement, partir sur du bio... Même si voilà, c'est par conviction, il faut d'abord apprendre à gérer son enherbement, à gérer sa vigueur, à savoir valoriser son vin aussi. On n'en a pas parlé encore pour l'instant, mais partir sur des techniques plus compliquées, c'est aussi augmenter le prix de la bouteille. C'est-à-dire trouver une clientèle qui accepte que ma bouteille, elle peut risquer d'augmenter si mon itinéraire technique ne va plus me faire avoir les rendements que j'avais avant. Et ça, pour certaines personnes, c'est aussi prendre un risque, en fait. Et c'est toute cette notion de est-ce que j'accepte le risque ou pas? Est-ce que j'accepte d'avoir une année très compliquée où je ne gère pas? Et c'est de l'apprentissage, c'est vraiment de l'apprentissage. Ouais.
Peut-être d'autres personnes peuvent intervenir là-dessus, non?
Oui, l'Europe a subventionné des clones labellisés et ne subventionne pas le viticulteur qui veut planter des vignes à partir de sélection massale, ce qui est fort dommage. Alors peut-être expliquer les deux, Le clone, c'est-à-dire que vous faites à partir d'un sarment qui a été considéré comme bon, non vérolé, etc., vous allez le multiplier à l'infini. Hein. Donc c'est le même type de cep que vous allez avoir pratiquement dans une vigne. On verra un exemple tout à l'heure. La sélection massale, vous prenez sur les souches les plus belles des sarments, le viticulteur à l'œil en général, et ces sarments, la vigne, c'est une liane. Hein, on va le bouturer, hein, on le met en terre. Et une fois qu'il est prêt, bien entendu, on va le greffer. Alors, il y a aussi toute la question du greffage qui est aussi à prendre en ligne de compte avec certaines maladies de la vigne actuellement. Et ça va donner une vigne tout à fait différente par rapport au clonage. Alors, d'abord, d'un point de vue sanitaire, c'est très intéressant d'aller chercher des sarments et de les faire bouturer sur différents pieds et donc différentes variétés de pinot noir, de chardonnay, etc. Et finalement, ces différents boutures se défendront mieux face aux maladies que les clones. Un exemple, à Pomerol, on a un seul porte-greffe pour toute l'appellation et deux seulement de clones. Vous imaginez, lorsqu'une maladie passe par là, hein, c'est toute la vigne qui est touchée. Et puis, d'un point de vue du goût, ça harmonise vers le bas, hein, d'une certaine manière, même si Pomerol est considéré comme un grand vignoble, ça harmonise vers le bas vous avez le même goût de Pomerol d'un château presque à l'autre, hein, notamment après vieillissement. Donc l'aspect massal est très intéressant, à tel point qu'un pépiniériste, et là aussi on n'a pas évoqué la question des pépiniéristes en France, la France est très réputée sur ce plan-là, puisque c'est le premier pays au monde qui produit 40% des clones. Donc ça, c'est un point important. Et vous avez, je dirais en Vendée, je crois que c'est un des premiers pépiniéristes après une cave coopérative italienne. Et puis vous avez bien entendu le sillon alpin également un grand pépiniériste. Donc ça c'est un point peut-être très, très positif. Mais il n'en demeure pas moins que le fameux pépiniériste du Vaucluse qui s'appelle Berillon est un personnage qui a abandonné le clonage dans les années 2005 pour se concentrer uniquement sur la sélection massale. Et qui vient à la sélection massale? Eh bien, les grands domaines, ceux qui arrivent à produire les vins les plus réputés et qui vont finalement abandonner les clones au profit de bouturage, donc du système de la sélection massale. Alors, la grande différence, c'est que le clone, c'est en gros, en moyenne, 1 euro, 1,20 € la pièce. Le cep de sélection massale, ça représentera 4 à 5 euros. C'est une mise plus importante, mais il n'en demeure pas moins que si Berillon est passé du clonage à la sélection massale, c'est qu'il s'était rendu compte que dans les vignes, les clones, au bout de 10 ans, avaient souvent des maladies, alors que les vieilles vignes de 20, 40, voire 60 ans et plus étaient beaucoup moins touchées par ces maladies-là. Donc là, il y a quelque chose à creuser, mais c'est peut-être une croisade perdue, dans la mesure où 90% du vignoble est cloné, alors que 10% seulement est utilisé en sous forme de sélection massale. Donc il y a quand même une réflexion qui se pose, hein, parce que notre élément, nous sommes partis sur le vin. Je ne veux pas parler trop longtemps, hein, je vais laisser la parole aux autres. Mais bon, il y a quand même des causes qui me tiennent à cœur. Je suis là pour vous. Hein. Il faut bien, bien insister, si vous voulez, sur le fait que 10% en sélection massale, 90% croisade perdue, je ne sais pas, mais on se rend compte que depuis, si on regarde la production totale du vin en millions d'hectolitres en France, depuis les années 60, on est passé
pratiquement, alors que le climat est plus favorable. Hein, on est bien d'accord là-dessus, hein, vous l'avez bien dit, et on n'y revient pas. On est passé de 65 millions d'hectolitres, hein, produits en moyenne dans les années 60, à dernière récolte 2017, 37 millions. Hein, deuxième après l'Italie, 39. Mais 20% de chute par rapport à l'année précédente. Bon, c'est une année de gel, 2017, certes, mais les moyennes sur les années 2000-2017 se situent autour de 40-45, alors qu'on était pratiquement, je crois qu'il y a une année, ça doit être l'année 65, si je ne m'abuse, où on était à 78 millions d'hectolitres produits. Il faut dire aussi que dans ces années-là, le français moyen, alors vous allez un peu sursauter, buvait en moyenne 100 litres de vin, alors qu'aujourd'hui, on est à 47 litres. Alors, on boit moins,
heureusement,
mais on peut tirer la révérence à nos viticulteurs, on boit mieux.
Alors, sur la question... Si ? Non ? Une question là-bas ?
Oui, voilà, j'avais une question, c'était par rapport à cette compétition entre l'herbe et puis la vigne. Et vous disiez que c'était quelque chose qui était difficile justement de désherber. Je me posais la question aussi, vous mentionnez que les terrains étaient assez inclinés. Donc j'imagine, je me pose la question en fait de l'érosion en fait. Est-ce que justement si on arrive trop bien à désherber, est-ce que on éprouve à un moment donné ou pas des problèmes justement de diminution, perte de sol, perte de quelque chose qui se ressent au niveau de la vigne, ou alors c'est vraiment quelque chose de qui n'est pas central, quoi.
Oui.
Alors, du coup, en Savoie, les vignes, elles ont été enherbées. Alors, je pense que monsieur aura la date peut-être avant moi. Donc, j'ai vu un viticulteur cet après-midi qui m'a dit qu'il avait enherbé fin des années 80. Donc, voilà. Ça a été enherbé pour justement tous ces problèmes d'érosion. Donc, moi, quand je parle d'herbe, de concurrence, c'est sous le rang. Il y a des parcelles où on ne désherbe pas et on ne travaille pas son sol et qui se gère très bien. Il faut pas faire de cas particuliers sur la vigueur de la vigne et sur la concurrence. Chaque parcelle, même au sein d'un domaine, peut se conduire différemment. C'est en fonction, on parlait des porte-greffes, des clones qui ne réagissent pas de la même façon. Alors après, en coteau, le souci, c'est vrai que s'il n'y a pas d'herbe, on va retrouver la terre en bas de la parcelle. On est d'accord. C'est pour ça que ça a été enherbé. Et on parlait de désherbage. Donc, c'est le mot qui fait peur en ce moment. Je sais qu'à un moment donné, la question va être posée. Donc, en coteau, c'est là où c'est difficile de travailler son sol et où, du coup, certaines personnes n'ont pas beaucoup de profondeur de sol. Donc, ont de la concurrence et, du coup, désherbent sous le rang. Actuellement, voilà, c'est ça. Je ne sais pas si du coup j'ai répondu à la question ou pas, elle était un peu large, mais... Désherber sous le rang. Alors, le rang, c'est là où les vignes sont plantées, en fait. Et après, ce qu'on appelle l'interrang, c'est entre les deux rangs. Donc, les viticulteurs en Savoie laissent généralement l'herbe entre les deux rangs, donc ce que j'appelle l'interrang. Ou travaille un rang sur deux quand il travaille le sol aussi pour éviter qu'il y ait trop de concurrence herbe vigne, mais il laisse toujours. Enfin, depuis que je suis ici, j'ai pas vu de parcelle totalement travaillée sur des pentes. Sur du plat, j'en ai vu. Parce que justement sur des pentes, sinon on retrouve la terre en bas et du coup, faut vraiment l'herbe. L'important, ça porte le sol. Ça porte le sol.
Nous, donc, on est en pente assez forte, puisqu'on a des pentes qui oscillent entre 35 et 75% de pente pour les vignes les plus raides, avec des problèmes d'entrée dans les parcelles qui ne sont pas évidents, ou voire impossibles. Pour reprendre tout à l'heure le problème de l'enherbement après une culture conventionnelle, après, disons, des vignes qui ont été désherbées chimiquement, on l'a connu, nous, ça, au début, hein, chimiquement pendant des années, c'est une horreur. C'est-à-dire qu'on a des invasifs, des morelles noires, des choses comme ça, qui, au lieu d'être hautes comme ça, sont hautes comme ça. Et ça pose un réel problème. Ça va durer quelques années. Et c'est vrai qu'au bout de on va dire, 4-5 ans, les choses se stabilisent et on a un couvert végétal naturel. Donc, on a essayé de faire des ensemencements, mais c'est pas génial du tout. Hein, ça nous a vraiment déplu. On a un couvert végétal qui est varié et qui, finalement, les végétaux rentrent en concurrence les uns par rapport aux autres et ne prennent plus des dimensions gigantesques. Hein. Donc, ça se gère relativement facilement à condition... Alors, on travaille au treuil, on griffe les vignes. Hein. Donc, c'est un travail qui est long, hein, parce que il faut installer le treuil, il faut, même si on a du matériel, on a un tracteur ou une chenillette, mais c'est quand même du boulot. Mais c'est très efficace. Hein. Ça évite aussi de déstructurer le couvert végétal, qui est très important pour les histoires d'érosion. Hein. Et puis, simplement, pour aller dans les vignes, c'est quand même c'est important d'avoir quelque chose qui tienne sous les pieds. Voilà, donc c'est, en fait, en gros, c'est on fauche et on griffe. Hein, c'est les deux gros, comment dire, deux grosses actions que l'on mène sur nos vignes. On le fait systématiquement pour toutes les vignes, soit avec au treuil, soit on a une rotobineuse aussi qui permet de griffer d'une façon très superficielle. C'est jamais trop, très profond. Hein, quand on griffe, c'est entre 2 et 5 cm de profondeur, pas plus. Hein, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Ça permet de rebooster le sol aussi, hein, de réoxygéner, de favoriser la vie microbienne du sol. Ça, c'est très important. Hein. Et ça permet également à l'engrais que l'on va mettre sous forme d'engrais organique, hein, d'être plus opérant. Hein, voilà. Alors c'est sûr qu'il y a une concurrence entre l'herbe et la vigne. Ça, c'est évident. Hein. Surtout pour les herbes de type raie gras, fétuque et tout ça, c'est vrai qu'il y a une grosse concurrence au niveau de l'azote. Mais les vignes qui sont trop productrices ne font pas forcément les meilleurs produits. Et on a des vignes qui oscillent avec des rendements de 55 à 70%, à 70 hecto-hectares. C'est largement suffisant pour faire des vins de qualité. Il n'y a pas lieu de faire mieux, en fait. Je veux dire, voilà. Mais c'est vrai que c'est quand même un problème, hein, la concurrence de l'herbe et sa gestion, c'est quand même pas très simple.
Du coup, je voulais rajouter quelque chose. Cette année, on a moi, je travaille surtout en collectif. C'est ce qui fonctionne, en fait, travailler ensemble, les viticulteurs, par zone, et après on se rencontre et on a un collectif qui est sur l'avant-pays savoyard qui travaille justement sur ces questions d'enherbement. Alors c'est un collectif 100% conventionnel, mais qui va piocher aussi les idées, hein, chez les bio. Donc on travaille juste sur les herbicides, sur comment je peux arrêter mes herbicides en gardant mon rendement. Et donc on a plein d'idées piochées chez les autres, dans les autres vignobles de pente. On est allé en Ardèche et en Côte-du-Rhône pour voir comment ça se passait, puisqu'on n'a pas que des pentes en Savoie et en Haute-Savoie. Et donc on va tester des choses qui, j'espère, seront concluantes et qui vont un peu être essaimées dans le reste des vignobles, enfin des exploitations en Savoie. Donc ça bouge sur ce côté-là aussi et on travaille là-dessus.
Alors, je vais m'amuser à poser cette question. Je me demandais si, par exemple, un grand chef d'un restaurant 3 étoiles ou un proposait et invitait à déguster davantage du persan, est-ce qu'on se limiterait encore à cette production ou on chercherait un peu ça et là à produire du persan parce qu'il y a un phénomène de demande et marketing qui est impulsé par un certain nombre de personnes un peu médiatiques, où finalement on serait contraint à cette production très limitée du fait du terroir. Et c'est pour aborder un peu le développement des vins de Savoie, parce qu'on connaît le Chenin Bergeron qui s'est retrouvé sur certaines tables de restaurants. J'attribue des vertus un peu, enfin des qualités organoleptiques aux persans qui sont intéressantes. Et je trouve dommage qu'ils ne soient pas plus promus aussi en termes de... Et je me posais la question suivante, comment réagiraient effectivement les instances et institutions autour du vin de Savoie sur le développement du persan si on le proposait davantage à travers des médias ou autres, parce que quelqu'un en faisait la promotion.
Vous allez répondre ? Qui veut ?
Par rapport à la question, je ne sais pas si je vais pouvoir y répondre, mais on fait un peu de persan, c'est tout nouveau, hein, puisqu'il n'y en avait pas sur le coteau, hein, au moins chez nous. On est pourtant dans la Maurienne, c'est le berceau du persan. Mais il n'y en avait pas à Eton. Il y en avait un petit peu plus haut, sur la commune limitrophe, mais pas à Eton. Enfin, à ma connaissance, non. Oui, ça fait quelque chose de très, très bon. On a fait première vraie cuvée cette année. On s'est fait un peu prendre par l'avancement des... Enfin, disons, la maturité, la surmaturité du raisin, puisqu'on a eu un petit problème. Il a été ramassé, il faisait 17,5 de degrés potentiel. Donc, c'était... c'était pas envisageable de le faire tout seul. Et donc, on l'a fait avec un cousin du persan, qui est l'étraire de la Duy, et qui, lui, a baissé assez fortement le degré, puisqu'on est passé de 17,5 à 15 degrés. Ça reste quand même un vin très... C'est bon, c'est vrai que c'est très bon.
Oui, c'est un très bon vin. Oui, c'est 1% de la production en Savoie, donc
oui,
c'est
oui,
bien
oui,
dommage.
Exact. Mais ça va peut-être prendre de l'ampleur. Hein. Je pense que c'est, il faut commencer, et puis c'est après... Benoît, t'en fais, toi, du persan?
Ouais. Merci. Donc oui, je suis producteur de persan, mon père avant moi, donc on en a depuis 1998. On a un écho très très favorable au persan. Nous, on aime les vieux cépages, comme Bernard, je pense. On aide au développement, je suis pépiniériste, donc si un viticulteur me demande des plants de persan, je lui en fais avec le plus grand plaisir. Pourquoi peut-être il n'y a pas eu beaucoup plus d'écho que ça? Parce que pour planter une nouvelle vigne, il faut alors d'une part la planter, donc c'est des moyens financiers d'une première part, et ensuite il faut 4 ans pour espérer une première récolte, hors accident météo ou autre chose. Et ensuite, très souvent dans le cadre de vins rouges, il faut quelques années de plus pour avoir vraiment une récolte de qualité. Donc j'ai envie de dire, il faut peut-être 7-8 ans, presque 10. Tout ça, c'est des facteurs qui peuvent freiner des viticulteurs. Concernant la restauration, et admettons la restauration haut de gamme, on a un écho très favorable et les gens nous entraînent à produire ce type de vin. Ouais.
N'oubliez pas historiquement que ce sont les grands étoilés de la région qui sont venus chercher la mondeuse à Arbin notamment. Je ne ferai pas de publicité particulière, hein, mais effectivement, les trois gros, beaucoup, etc., ont apprécié la mondeuse. Donc, pourquoi ça ne marcherait pas avec le persan? Alors, ça pose une autre question, hein, pour, là encore, ouvrir un peu plus le débat, qui est la question des cépages modestes. Vous dites les cépages anciens. Hein, vous savez qu'il y a eu une réunion au niveau national de tout ce qui est cépage ancien. Il y a toute une série de régions, en particulier les piémonts des grandes montagnes, qu'il s'agisse des Alpes ou qu'il s'agisse des Pyrénées, sont des zones où il y a une très grande variété de cépages. Alors, beaucoup sont à l'abandon. Le persan, sa renaissance date d'une... Petite vingtaine d'années, c'est 10 hectares plantés. Hein. C'est très peu de choses, mais des mélanges avec, ou des assemblages, pardon, avec la mondeuse peuvent donner, ou les traires de la Duy, peuvent donner des résultats tout à fait intéressants. Alors, un des avantages de ces cépages modestes, ou anciens, ou vieux, comme vous voulez, qui remontent à la période avant le phylloxéra, hein, qui a amené notamment une grande sélection, hein, on est à 7-8 cépages qui dépassent les 5% chacun. Certains vont jusqu'à 20%. Donc avec 8 cépages, c'est comme les variétés de pommes, si vous voulez. On produit les 3/4 de la production nationale. Bon, on se rend compte malgré tout qu'avec le réchauffement climatique, ces cépages sélectionnés avec des clones souvent à forte production arrivent très rapidement, notamment les années chaudes, 2009, 2010, 14, 15, 16, à des degrés, vous avez des Bordeaux, à 14,5, 15 degrés aujourd'hui. Hein, alors qu'on avait l'habitude de boire un Bordeaux à 12,5, hein, pendant des décennies, hein, de la Deuxième Guerre mondiale, pratiquement jusqu'aux années 90. Là, aujourd'hui, on atteint des taux très élevés. Alors, certains propriétaires se rendent compte, dans les domaines, que ces vieux cépages sont tout à fait intéressant dans les assemblages pour faire baisser un petit peu le niveau d'alcool. Alors, on a le petit verre d'eau, on a le Cabernet Franc, notamment dans la partie du Médoc, mais ça, ce sont des cépages classiques. Cabernet Franc, c'est 4% d'encépagement au niveau national. Hein. Ça fait pas beaucoup de choses. Et dans d'autres régions, on met en avant des cépages anciens connus, par exemple, au XVIIe et XVIIIe siècle, dans les ouvrages d'Olivier de Serres, qui était le ministre, entre guillemets, de l'agriculture du bon roi Henri IV, qui, entre nous, au niveau climatique, a bénéficié peut-être, dans le petit âge glaciaire, entre 1598 et 1610, de la période climatique la plus favorable. Donc ça, c'est quand même tout à fait intéressant. Je reviens à mon affaire concernant les vieux cépages, dans la région de Gaillac, qui est quand même un des plus vieux vignobles de notre Gaule-France, hein, puisqu'il remonte à la période romaine. Hein. Je laisse de côté la côte méditerranéenne, bien entendu. Il y a Tain-l'Hermitage et il y a Gaillac. À Gaillac, il y a une variété extraordinaire de cépages, à tel point que certains vignerons historiens, comme un certain Plajol, à certains ça dit quelque chose, est allé ressortir tous ces vieux cépages, et en particulier le prunelard, qui servait, comme son nom l'indique, il a un petit goût de prune, qui servait de cépage améliorateur au vin de Bordeaux au XVIIe et XVIIIe siècle, à une époque où les conditions climatiques n'étaient pas très favorables au moment des vendanges. Donc, vous voyez, il y a quand même quelque chose qui se dessine au niveau national. On recherche, comme les vieilles variétés de pommiers, des vieilles variétés, des vieux cépages qui ont leur intérêt. Alors, bien entendu, ça change la donne en termes de dégustation. Et notre collègue pourra dire peut-être quelques mots là-dessus, parce que c'est important. Mais ça pourrait permettre, en Languedoc, par exemple, où on est allé fourrer des cépages Grenoble, Grenache, Mourvèdre, etc., qui font qu'on atteint des 16, voire des 17 degrés. Mais c'est catastrophique, ça ne peut plus se boire, ce genre de vin. Et donc, on revient aux anciens cépages, type Ribérenc, type Aramon de Coteau, bien entendu, ou Carignan, qui sont moins puissants et qui permettent de faire des vins qui sont buvables. Il faut quand même, on n'achète pas du vin pour faire des collections comme les milliardaires américains. Hein.
Alors je me permets de rebondir sur l'histoire des anciens cépages. Justement, est-ce que le Vaunier, on peut le revenir dans notre région, alors qu'il est apparemment condamné à être un peu sur la vallée du Rhône, et on aimerait peut-être le déguster plus...
Je vais rebondir presque immédiatement sur ce qui a été dit. La diversité de cépages, c'est ce qui peut sauver la vigne française de la modification du climat. Et c'est une évidence. Donc, évidemment, le climat de la Combe de Savoie, je dirais actuel, est à peu près celui de Valence, hein, en vallée du Rhône, il y a 50 ans. Dans une vingtaine d'années, on projette à peu près que ça soit celui de Bolène. Vous imaginez que ça veut dire que la Syrah est tout à fait cultivable en Combe de Savoie.
En Combe de Savoie. Ah,
bien sûr. Alors, évidemment, le Viognier.
Évidemment,
voilà, il n'y a aucun risque là-dessus.
Sur ces différences organoleptiques...
Le vrai problème, il n'est pas là. Le vrai problème, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est qu'on arrive avec des cépages classiques dans le Languedoc ou dans le Roussillon, qui titre 15 à 16 degrés une fois vinifié, ce qui n'est plus acceptable, ce qui n'est plus buvable.
Alors, peut-être pour madame, ma question justement sur ces différences organoleptiques, je me posais la question si, par rapport à ces modifications de climat, changement météo, etc., on avait noté une différence organoleptique pour un même cépage, c'est-à-dire dans le temps, où on essaie toujours de compenser pour faire plaisir au palais, ou au contraire, on va laisser un vin se faire en tenant compte de ces différences de climat, et il y a une différence notoire qui se voit.
On va déjà repartir sur votre première question, qui était sur le persan. Le persan, donc, c'était quand même le meilleur vin de Savoie. Les archives, même au XIVe siècle, il y a un poète qui s'appelait Nicolas Martin, et qui en parlait. Non. Vous ne... 17e. D'accord. Monsieur l'historien, vous avez certainement raison. Bref, pourquoi... Il y a une explication. pourquoi le persan, au moment de l'accession des vins de Savoie à l'appellation d'origine contrôlée, hein, qui date de 1973, le persan faisait partie, hein, de la nomenclature de tous les cépages acceptés. On en a plus d'une vingtaine, 20, 23, 24, 25. Le persan, il y était bien toujours dans le cahier des charges, mais les vignerons à l'époque ne l'ont pas replanté. C'était parce qu'on ne savait pas le travailler. Il y avait un rendement assez fort à l'hectare et c'était un vin, c'est un raisin qui donne un vin très acide. Très acide lorsque le rendement à l'hectare est très important. C'est un vin dont on sait très bien qu'il faut attendre une dizaine, une quinzaine d'années avant de pouvoir le déguster au mieux de sa forme. Alors aujourd'hui, bien sûr, les vignerons savent maîtriser le rendement, donc les raisins sont beaucoup plus mûrs et ça donne un vin avec moins d'acidité. Ajoutons à cela le fait que le réchauffement climatique fait que nous avons en Savoie des degrés pour chaque cépage. On ne parle pas seulement du persan, mais tous les cépages de Savoie bénéficient de ce réchauffement climatique, parce qu'il y avait peut-être une carence en degrés pour que ce soit la jacquère dans les blancs ou bien dans les rouges, la mondeuse. Ce sont des cépages qui n'ont pas beaucoup d'alcool. Et tant mieux, alors c'est pour parler également de la question qui était soulevée, d'un point de vue organoleptique aujourd'hui, et puis du point de vue à tous les points de vue, les vins de Savoie, pour parler des vins de Savoie, et puis de la région septentrionale à laquelle nous nous trouvons, les vins de Savoie ont tout à gagner. Parce que les vins, ils sont légèrement plus alcoolisés, mais encore, ça reste bien faible. Hein, lorsque vous avez des vins de Savoie à 11, 11,5, mais c'est parfait. Parce que ce sont des vins qui sont à la fois aromatiquement très, très agréables, la vivacité des vins blancs, les tanins, des vins rouges, ce sont des exhausteurs de goût. C'est très agréable au nez. Et en bouche, vous vous faites plaisir parce que justement, ça laisse la bouche propre. Ce sont des vins dont on dit qu'ils ont une digestibilité qui correspond d'ailleurs tout à fait à notre façon de consommer aujourd'hui. Et donc, pour rebondir sur la question que vous posiez, les restaurateurs étoilés, eh bien, ils le savent, cela. Dans leur cuisine, ils ont besoin de vin. Ils ont la plupart des chefs étoilés, bien souvent, ont une cuisine à base où ils font ressortir et les amers et la bonne acidité. Et ils ont besoin de ce genre de vin, de ce style de vin qui accompagne parfaitement leur mets. Et ce sont souvent des vins qui sont demandés, non pas seulement parce qu'ils sont rares, mais aussi parce qu'ils correspondent à notre besoin de consommation, à notre façon de consommer aujourd'hui.
Oui, et puis, d'autant plus que j'ai remarqué que le prix ne justifiait pas la rareté du vin, parce qu'on a des prix équivalents au Chénin Bergeron pour du persan. Bon, et on a une production beaucoup plus faible du persan, il me semble, par rapport à celle du Chénin Bergeron. Mais alors du coup, c'était un vin qui était beaucoup consommé à la cour, je pense à l'époque des rois de Savoie.
C'est Monsieur l'historien qui va répondre.
Oui, il y a eu des modes. Hein. Oui. Le vin blanc est une réalité tout à fait récente.
Mais pour le persan, dans l'histoire du persan, c'était un vin qui était le plus souvent consommé à la cour il y a 200-300 ans.
17e.
Oui.
On l'a dans les caves des principaux ecclésiastiques de la région. D'accord. Donc ils savaient ce qui était bon.
Oui, bon,
là, il n'y a pas de problème. On ne le trouvait pas chez le paysan du coin, ça c'est évident. Hein, de l'époque. Alors juste un dernier point pour vous conforter dans votre idée. Vous avez cité la Syrah dans la Côme de Savoie, mais en fait elle revient chez elle, puisque l'ADN des cépages s'est fortement développé aujourd'hui. On a même des dictionnaires qui nous permettent de savoir qui est le frère de qui, la sœur de qui, la fille, etc. La Syrah, c'est est issu de la mondeuse blanche qui commence à repartir, hein, il y a quelques hectares qui sont plantés, et de la Duras qui était plantée en Ardèche. Alors vous me direz comment s'est passé le mariage, j'étais pas là, hein, mais
manifestement, ça s'est réalisé et ça nous a donné la Syrah qui autrefois s'appelait la Sérine ou Petite Sérine et qui a été utilisée, on a utilisé la Syrah parce que ça faisait plus riche, hein, d'origine persane comme l'Altesse, etc. Alors que ce sont des cépages qui sont originaires de la région. Les Valaisans ont communiqué en disant « tous nos cépages viennent de chez nous ». On s'est rendu compte, grâce à l'ADN des cépages, qu'ils venaient tous de la vallée d'Aoste, qu'ils avaient été apportés par les légions romaines dans le Valais, bon, etc., etc. Donc on est au début d'une véritable révolution, mais qui est tout à fait intéressante quant à l'origine et aux liens qui peuvent exister entre les différentes variétés qui existent chez nous. Et de la sorte, ça permet de remettre dans le jeu d'anciens cépages. Moi, je suis tout à fait content que le persan soit à nouveau utilisé, mais peut-être qu'un assemblage avec les rouges de la région, les autres cépages, donnera des résultats tout à fait remarquables. Hein, parce que, je vous le dis encore, jusqu'au XVIIe, le rouge, pratiquement jusqu'à la révolution des transports. Et puis, à partir de ce moment-là, le rouge est concurrencé par le gros rouge du Midi. Ça valait pas lourd. Hein. Bon, jusqu'aux années 1970, je vous raconte pas l'histoire de ma famille. On y serait jusqu'à demain matin. Mais ça valait rien, hein, 1970. Donc, après, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a arraché les vignes rouges et on a développé davantage le blanc qui correspondait au goût, aux possibilités, finalement, aussi des terroirs. Terroirs calcaires, ça se mariait fort bien. Et on est revenu au rouge. Finalement, ces dernières années, la mondeuse a failli disparaître, hein, comme le persan, peut-être encore plus, hein, d'une certaine manière. Donc, l'historique, si vous voulez, l'histoire des vignobles est liée à la fois au mode de consommation et en même temps aussi à l'histoire générale, au contexte historique d'un moment. Et je crois qu'il faut rapprocher le développement du vignoble savoyard à la présence d'une dynastie comtale et ducale par la suite qui savait choisir ses terrains, puisque les principaux clos qui sont devenus des crus aujourd'hui en Savoie étaient cultivés par les salariés du comte de Savoie. Hein, ils n'utilisaient même pas sous forme de redevance le vin des viticulteurs de ces terres, mais il avait ses propres chais, son propre pressoir, et il élevait lui-même, il faisait élever, bien entendu, ses propres vins. L'évêque de Grenoble avait à Chignin des terres aussi. Je m'arrête.
Madame, vous pouvez poser une question?
Oui, pour revenir sur des questions peut-être plus pratiques, plus pragmatiques, quel est le poids économique du vignoble en Savoie? Comment il évolue, comment il a évolué au cours de ces dernières années. Si on se pose la question sur le devenir, ce n'est pas neutre. Et comment il a évolué aussi au niveau des surfaces plantées.
Peut-être vous allez répondre.
Alors, je n'ai pas toutes les réponses. Non, mais parce que en fait, c'est plutôt le syndicat des vins de Savoie qui connaît voilà. Si quelqu'un a la réponse, hein, n'hésitez pas. Il me semble, de ce que j'ai retenu, c'est que la surface, elle n'a pas beaucoup diminué, mais il y a moins de viticulteurs. Enfin, c'est ce qu'on m'a expliqué. Après, je n'ai pas plus de réponses. Désolée.
Peut-être quelqu'un...
Moi, j'ai une question après. Si
on peut préciser que avant le phylloxéra, on était à peu près à 20 000 hectares. On est tombé à 1 000, on est dans les années 60, du fait de la crise, l'exode rural, etc. Et on est remonté avec, finalement, de vrais viticulteurs qui travaillent leur vigne aujourd'hui, qui ne font pas de la polyculture, à 2 000 hectares à peu près. Voilà. C'est un pourcentage relativement faible au niveau national, puisqu'on est en dessous de l'Alsace, qui doit faire un peu plus de deux fois et demi. Et en termes de production, ça doit faire quelque chose comme un peu plus de 110 000 hectolitres, bon an, mal an. Vous
avez peut-être... Oui, c'est entre 110 000 hectolitres et 130 000 hectolitres selon le millésime. Je crois qu'il y a 2200 hectares. Hein, mais bon, voilà.
Donc, voilà. Peut-être qu'on va s'interrompre un moment, là, à moins qu'on prenne encore une question. Allez.
Bon, une question. Alors, tout à l'heure, vous disiez, madame, que finalement, le réchauffement climatique pouvait être un bon point pour le vignoble de Savoie. Est-ce que vous, même les vignerons, enfin aussi les vignerons, prennent en compte ce point de vue-là? Parce que les prévisions des scientifiques annoncent des moyennes importantes à 2, 3, 4. Enfin bon, ça change complètement l'organisation de la viticulture. Est-ce que vous arrivez à avoir une organisation, une visibilité dans votre gestion de vos vignes? Puisque quand vous plantez des vignes, c'est pour 20, 30, 40 ans. Donc on est en plein sur les échelles de temps qui sont celles du réchauffement climatique. J'ai vu passer qu'il y avait les grands vignobles français, ceux qui sont grands en termes de surface et en termes de revenus, qui anticipaient beaucoup ces choses-là. Est-ce qu'il y a un petit peu d'activité sur ce terrain-là pour ce qui est du vignoble de Savoie?
Vous pouvez répondre l'un et l'autre, là.
Alors, ma connaissance, pas du tout. Parce qu'en Savoie, on est quand même sur majoritairement des petites structures. Et on a plutôt la tête dans le guidon que la projection ou la possibilité d'aller planter des vignes en Angleterre, parce qu'on se dit que dans 30 ans, on ne pourra plus cultiver les vignes chez nous.
Non, un vigneron ne va pas changer d'endroit, mais par contre, il peut anticiper sur le changement des cépages. Après, c'est sûr que si vous êtes des petites structures, ça n'aide pas pour anticiper, mais vous n'allez pas déménager. Mais par contre, vous pouvez changer de cépage en anticipant ce qu'il disait tout à l'heure avec le vionnier ou ce genre de choses.
Je voudrais juste dire que probablement les vins de Savoie ont un avantage extraordinaire. C'est justement la diversité géographique de vignes qui ne sont pas à plat. Et donc on a finalement entre Lubac et la Drette d'une même vallée des climats complètement différents. Ce qui veut dire tout simplement que la meilleure stratégie d'adaptation au changement climatique des vins de Savoie sera tout simplement de changer un peu l'orientation des coteaux. Vous avez remarqué qu'ils sont tous au sud-est. Hein, la majorité des vignes de Savoie sont exposées au sud-est. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, c'est que ce sont les zones les moins gélives. Pourquoi ? Parce que c'est celles qui prennent le soleil du matin et elles sont en coteaux, donc l'air froid coule en bas, on n'a pas de gel. Si les mêmes cépages deviennent, je dirais, trop alcoolisés, qu'ils ont trop de sucre, que les vendanges se font trop tôt, eh ben, il suffira d'orienter vos vignes plutôt du côté sud-ouest, et là, vous aurez des vins qui s'adapteront avec la différence climatique qui va bien avec le même cépage. Je pense que la première adaptation, elle est là, donc il n'y a pas besoin, je dirais, d'une réflexion vraiment très stratégique dans l'adaptation au changement climatique grâce à nos terrains accidentés de montagne, tout simplement.
Mais il faut quand même acheter
des terres. Et on peut également remonter les vignes en altitude, hein, ce qui est déjà fait dans certaines zones en Suisse, c'est déjà le cas.
Excusez-moi, mais ça demande de la stratégie, parce que vous dites qu'il faut
acheter des
terres.
Ça demande de la stratégie, mais si on dit qu'il y avait 20 000 hectares et qu'il n'y en a plus que 2000, je pense qu'il y a des terres disponibles encore.
Bien, nous allons vous proposer une pause. Donc pendant cette pause, comme habituellement, vous pouvez aller consommer des boissons donc, dans la pièce à côté, puisque la salle nous est proposée toujours gratuitement. Ah, du vin ou ce qui vous plaît, c'est peut-être pas l'heure pour le vin, je ne sais pas. Vous ne trouverez peut-être pas de personne non plus.